Jacques, le ravi, Radio Grenouille.
Bonjour et belle année, c'est l'heure de la Grande Tchatche, le rendez-vous politique du journal Le Ravi en partenariat avec Radio Grenouille. Bonjour Michel Guéraud.
Bonjour Rafi Amal.
Premier invité 2018, Mohamed Lakhila, député Modem de la 11e circonscription, ex-Ouest des Bouches-du-Rhône, membre de la commission des finances, vice-président de la très curieuse commission spéciale chargée d'examiner les projets de loi pour un État au service d'une société de confiance. Vous nous en direz un peu plus sur cet objet non identifié. Bonjour Mohamed Lakhila.
Bonjour. Bonjour à vous, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de cette belle radio.
Une tradition dans cette émission, c'est le portrait de l'invité et c'est Michel Guéraud qui s'y colle.
Pour Macron et sa majorité, après plus de 6 mois d'exercice du pouvoir, c'est l'heure d'un premier bilan. Vous étiez donc, Mohamed Lakhila, le député incontournable pour se livrer à cet exercice. Car pour tirer le bilan de la start-up nation, qui de mieux qu'un expert comptable ? Voilà en effet bientôt 30 ans que, scrutant les comptes de résultats, vous exercez cette noble profession. Et votre petite entreprise est florissante puisque vous êtes à la tête d'un réseau national de 6 cabinets implantés à Aix, Marseille, Toulon, Avignon, Montpellier et à Lille. Vous avez été plébiscité par vos pairs en présidant l'ordre régional de votre profession, puis la Fédération nationale des experts comptables. Comme Macron, vous savez parler gros sous car vous avez obtenu en 87, vous alliez alors 28 ans, un diplôme de 3e cycle de monnaie, banque et finance à Aix-en-Provence. Mais contrairement au président En Marche, vous n'êtes pas sorti de la cuisse de Jupiter. Fils d'ouvrier immigré marocain, vous êtes né à Oulmès, un petit village du Moyen Atlas. Vous avez grandi jusqu'à vos 10 ans. Ensuite, avec vos deux sœurs et votre frère, cap sur Gap, puis sur Marseille. Studieux, la politique ne vous titille que sur le tard. Vous avez 39 ans en 98, lors de votre première candidature, alors sans étiquette. C'était dans les quartiers nord marseillais pour une élection cantonale. Mais votre premier mandat, ce sera 3 ans plus tard, sous les couleurs écologistes, conseiller d'arrondissement dans la mairie de secteur du 13-14, en charge du développement durable et des espaces verts. Il fallait faire ça à l'époque. Séduit par François Bayrou, oui, vous rejoignez le MoDem dès sa création en 2007. Et vous en êtes toujours adhérent, tout en ayant aussi rallié La République En Marche. Domicilié à Calas, charmant village provençal de la commune de Cabriès, non loin de la moins idyllique zone commerciale de plan de campagne, c'est finalement dans la plus chic 11e circonscription que vous êtes devenu député. Celle qui s'étend du Pays d'Aix jusqu'à Salon de Provence. Sans surprise, vous siégez à la commission des finances, vous êtes vice-président d'une commission spéciale, on en a parlé, chargé de vérifier et d'apurer les comptes de l'Assemblée, non, c'en est un autre, ça là. Et vous êtes trésorier du groupe du MoDem national. Bref, vous continuez à exercer votre expertise, au point que de mauvaises langues vous ont accusé de faire du lobbying pour votre corporation. Il n'arrête pas de faire des comptes.
Mohamed Lakhila a une réaction à ce portrait à la sauce Ravi, bien sûr.
Vous voyez un petit peu, en matière de transparence, je crois qu'il y a la totalité de toute ma vie, mais une bonne partie en tout cas, qui aujourd'hui est allé, assumé tel quel, même si parfois on était un peu plus discret, mais c'est vrai que tout est étalé publiquement, et tant mieux. Je pense que, avant tout, pour redonner confiance aux Français, il faut s'exposer, c'est ce qu'on fait, et il faut, bien évidemment, on le fait en matière financière, puisque aujourd'hui, on dépose, je dirais, son patrimoine, l'état de son patrimoine, son revenu, tout ça, c'est étalé. D'ailleurs, j'aimerais bien que tout le monde le fasse. Je dirais dans toutes les administrations, y compris celles qui nous le réclament aujourd'hui. Non, le portrait est assez complet. Alors, vous faites référence effectivement à Calas. Ça fait que 3 ans que j'habite Calas et c'est dans le cadre d'un accord entre le MoDem et En Marche que j'ai eu cette heure sur une circonscription dite ingagnable, bien évidemment, et ça m'a plus et enlever le défi.
Alors, vous avez parlé de transparence. Ici, on va connaître, on sait déjà beaucoup de choses, notamment aux nouvelles dispositions de l'Assemblée nationale. On va connaître vos opinions un peu plus en profondeur. Michel Guéraud a évoqué un sujet un petit peu délicat, en fin de portrait, celui du soupçon de conflit d'intérêts soulevé par la députée PS Valérie Rabault. Situation délicate, ancien président de la Fédération nationale des experts comptables, où vous avez défendu à l'Assemblée nationale plusieurs amendements concernant votre profession. Alors, conflit d'intérêts, le mot est trop fort ?
Non. Bon, en matière de transparence, c'est vrai que Rabault, pour la citer, ferait mieux de regarder quand même ce qu'elle a voté et ce qu'elle vote aujourd'hui. D'abord, je suis expert comptable, je le revendique, et tant mieux, et je continue à voir mes clients tous les lundis, voire le samedi. Donc c'est mon métier, et puis j'en vis aujourd'hui.
C'est compatible, voter la loi et voir ses clients le samedi ?
Bien évidemment. Moi, je considère que ce n'est pas un métier d'être député, c'est une mission.
Donc, voter les lois en même temps.
Et on vote les lois. Alors, les lois, il y a des lois. Aujourd'hui, on va traiter de la loi, par exemple, sur... on va avoir droit, l'immigration, le droit d'asile, on va avoir des sujets qui vont toucher à la médecine. Eh bien, si j'étais médecin, bien évidemment, je serais peut-être un peu plus investi. C'est loi qui toucherait à la médecine. Quand on touche aux finances, d'ailleurs, c'est un petit peu mon métier qui a fait que, d'entrée de jeu, c'est vers la commission des finances que tout le monde a souhaité me voir. C'est là où, d'ailleurs, où ça travaille le plus. Toutes les lois en matière finance, forcément, elles vont toucher de près, de loin, de toute façon l'entreprise en général. Il faut savoir qu'un chef, un expert comptable, avant tout, chef d'entreprise. J'ai rappelé à la fameuse députée que l'expert comptable, il sait ce que c'est qu'une éthique. Et quand ça touche directement sa profession, ça s'est passé une seule fois pendant la loi de finances, une seule fois, où il a fallu voter un amendement qui touchait le Conseil supérieur de l'ordre, auquel j'appartiens, et je me suis abstenu. Par contre, j'ai défendu des amendements qui concernaient les centres de gestion et en tout cas voter des amendements pour lutter contre la fraude fiscale.
C'est ce qu'elle a appelé les amendements corporatistes.
C'est ce qu'elle a dit. Je suis monté au créneau là-dessus, d'ailleurs ça n'a pas été voté, à mon grand regret, pour faire en sorte que des entreprises restent dans le radar des centres de gestion pour qu'elles soient mieux contrôlées. Je vous le rappelle à vous, retrouvé un amendement qu'elle avait déposé à l'époque pour lutter contre la fraude fiscale au niveau international. Elle avait proposé en tant que rapporteur du budget de la commission finance, donc c'est un poste très important. Elle avait déposé un texte, un amendement pour lutter contre la fraude fiscale. Et il s'est passé la chose suivante. Le ministre a demandé un deuxième vote. Et elle a voté contre son propre amendement. Donc, ce n'est pas elle qui va me donner des leçons d'éthique. Et en matière de déontologie, je sais de quoi je parle.
Alors, voilà.
J'assume complètement que je suis expert comptable. Et il y a des lois qui vont être votées, qui concernent la fiscalité. Et en tant que sachant, d'ailleurs, quand j'interpelle le ministre, parce que je sais de quoi je parle. Quand je dis, Madame la ministre, on était en matière de projet de loi sécurité sociale. Je dis, c'est un mécano qui vous parle. C'est-à-dire, c'est celui qui remplit une déclaration. Il sait ce que c'est. Et quand je défends un amendement, je le défends, bien évidemment, avec mon savoir, avec mon expertise, avec mon professionnalisme.
Alors, en même temps, vous déclariez à nos confrères de Mars Actu, qui ont écrit un sujet là, sur ces questions-là, c'était en juillet, il n'y a pas très longtemps, s'il y a une loi qui intéresse les experts comptables, soit je ne la voterai pas, soit je ferai en sorte de ne plus être partie prenante.
Quand elle touche l'institution... Et il y a eu un seul amendement qui touchait l'institution dans le cadre de la réforme territoriale, sans rentrer dans le détail. Il y avait une mesure fiscale uniquement pour l'institution, pas pour l'expert comptable, pour l'institution. Je me suis bien évidemment abstenu.
Mais c'est votre univers. Alors les journées s'en fait remarquer aussi. Et pourquoi pas, mais vous êtes entouré aussi de gens qui travaillaient pour vous dans vos cabinets, votre attaché parlementaire. Enfin, vous êtes entouré de gens que vous connaissez et qui viennent de votre milieu professionnel.
À mon grand regret, j'avais un délégué effectivement que j'avais en tant que président de la fédération. Il était mon délégué à la fédération. Quand je suis parti, je l'ai amené avec moi pour la simple raison, c'est qu'il avait l'expertise. Il avait été attaché parlementaire de Benoît Apparu. Donc pour démarrer en tout cas dans ce milieu que je ne maîtrisais pas, ça me paraissait logique qu'il vienne avec moi. Il m'a suivi, tant mieux. Le problème c'est qu'aujourd'hui il est happé par une autre institution parce qu'il va être mieux rémunéré que ce qu'il touchait avec moi. Donc je le perds à mon grand regret.
Alors si on élargit un peu, si on s'éloigne un peu de votre situation particulière, est-ce qu'on ne touche pas quand même à une problématique qui est bien celle des députés En Marche, les marcheurs, qui viennent beaucoup de la société civile? Est-ce que vraiment... Pour légiférer sur de la médecine, il faut être médecin. Pour légiférer sur la culture, il faut être éditrice. Est-ce que pour travailler sur les comptes publics, il faut être expert comptable? Est-ce qu'on ne touche pas quand même aux limites de cette spécialisation dans ce schéma voulu par Macron?
Moins de technocratie, plus de politique.
Moi, je pense que le politique, il doit quand même savoir de quoi il parle. Moi, quand j'interroge un ministre et qui se réfugie derrière les avis des administrateurs, administration. En gros, je ne vise personne, mais il y a Bercy, par exemple. On sent bien que le ministre, qui ne maîtriserait pas la matière, on peut lui raconter ce qu'on veut. En gros. Si j'étais député sur un projet de loi qui concernerait la médecine, je suis désolé, je ne suis pas médecin, je n'ai pas fait d'études de médecine, le technicien, le techno, comme vous pouvez l'appeler, il arrivera avec un rapport, il va me dire, monsieur le ministre, c'est comme ça, monsieur le député, c'est comme ça que vous allez voter. Ça, ça me gêne un petit peu. Et c'est vrai que les matières que je maîtrise le mieux, c'est tout ce qui est financement des entreprises, tout ce qui est fiscalité des entreprises, tout ce qui est simplification administrative. Je l'ai vécu depuis 20 ans en tant qu'expert comptable, même plus de 20 ans. Donc aujourd'hui, je suis sur ce projet de loi quand je défends des amendements. Et vous irez voir les amendements que j'ai défendus à la commission la semaine dernière, que je vais défendre encore la semaine prochaine face au ministre. Je sais de quoi je parle. Et quand il a des conseils, des conseillers autour de lui qui lui donnent une autre version, je me bats. Je me bats pourquoi ? Parce que j'ai cette maîtrise. J'ai cette maîtrise parce que je le vis encore tous les jours et je vois les conseils de loi qu'on vote au niveau des entreprises.
Alors, Michel Guéraud ?
Oui. On parlait de transparence hein, juste avant d'aborder cette question. Vous avez eu un choix. Le MoDem s'est beaucoup positionné sur cette question-là. Le Bayrou, avant de quitter le gouvernement, son passage très rapide, a légiféré là-dessus. C'est la question des emplois familiaux. Si vous avez pris une position qui était un peu différente de l'ensemble du groupe.
Tout à fait. Moi, je pense qu'il y a eu...
En clair, vous étiez favorable à ces...
Non, je suis pas. Alors, j'étais pas favorable pour les emplois familiaux, qu'on soit très clair. Il y a quelqu'un qui a fauté. Il faut le sanctionner. Par contre, autour de moi, je vois des épouses, voire des enfants qui travaillent avec leur mari, avec leur papa, etc. Je vois sur le terrain ce qu'ils produisent, encore plus que n'importe quel salarié qui ferait simplement ses heures partirait. Je trouve que sanctionner l'ensemble, en tout cas jeter l'opprobre sur l'ensemble des députés, c'est pas...
On a été hypocrite, là. Un petit peu, on a donné à manger à l'opinion, il fallait...
Oui, moi je pense que c'est... Voilà, je l'ai dit, je me suis exprimé d'ailleurs sur le sujet, je l'ai voté, et encore, il y a eu des amendements peut-être qui m'avaient agacé, que je n'avais pas voté. Mais je trouve que sanctionner des collaborateurs qui travaillaient avec leur conjoint, je trouve ça stupide. Il y a un qui a triché, il l'a payé, puis il n'a pas été élu. Il est poursuivi.
Non, en même temps, en termes d'égalité, ce n'est pas un message fabuleux qu'on adresse à la population.
Mais c'est
quand
terrible.
Un député arrive, la première chose qu'il fait, c'est embaucher son fils ou sa conjointe. Et en même temps, faire la morale aux jeunes
Ça ne se fait pas aussi simplement. Un député, à mon avis, qui arrive, il peut arriver aussi avec un passé, avec un historique, avec peut-être de la famille qui était très proche et qui ont travaillé avec lui. C'est vraiment une petite entreprise, un député. Il y a au moins trois collaborateurs, voire cinq.
Enfin, quand l'électeur vote pour un député, ce n'est pas pour qu'il engage sa famille, tout de même, Mohamed Lakhila.
Non, mélangeons pas tout.
Ben si.
Mélangeons pas tout. Il y a la partie, effectivement, collaborateur. Je ne vois pas pourquoi, alors que, y compris dans notre région, où le député travaillait avec le parlementaire, ben, il a fini quand même par l'épouser. Qu'est-ce qu'on fait ? On divorce ? Ou on licencie. Moi, je trouve ça stupide. Je pense qu'on va un peu trop loin en la matière. Voilà.
Michel Guéraud.
Le MoDem. Le MoDem, oui. Finalement, pas très audible au milieu de cette énorme majorité pour le président En Marche.
Bon, détrompez-vous.
Peut-être un mouvement qui avait été précurseur sur certaines tendances qui ont monté au pouvoir Emmanuel Macron, qui se retrouve un peu marginalisé.
Quand il a été créé, le MoDem, si je l'avais rejoint, c'est qu'on était sur les mêmes idées que se portait aujourd'hui par Macron. C'est-à-dire on dépassait les clivages, c'est ce qui m'avait plu. Moi, j'ai été élu, et ça a été rappelé dans le portrait, à la mairie de secteur. Et je présidais le groupe Vert Citoyen à l'époque. Mais quand il y avait une bonne idée qui arrivait du docteur Bourga, qui représentait à l'époque la droite, j'applaudissais et je disais bravo. Ah, c'est sûr que le maire à l'époque, qui était PS, me disait mais c'est pas possible, tu peux pas applaudir une idée qui arrive de chez Michel Bourga. Ben j'applaudissais. Quand il y avait une idée qui venait de Robert Brett, à l'époque, qui était...
Sénateur communiste,
qui était excellent pour moi comme sénateur. J'applaudissais également. Donc, en dehors des extrêmes que je combattrais tout le temps, je trouve, et à l'époque, je trouvais que l'idée même de la création du MoDem était une excellente idée. Bayrou a eu, à mon avis, raison trop tôt.
Alors, dépassement des clivages droite-gauche et un nouveau paradigme, puisqu'on fête les 8 mois de Macron à l'Élysée, un nouveau paradigme et de droite et de gauche. Néanmoins, certains pointent un sérieux penchant vers la droite, d'autres s'en réjouissent, comme Jean-François Copé, Mohamed Lakhila, qui se réjouit. Il est en train de devenir, dixit Jean-François Copé, il est en train de devenir le président de droite que les gens voulaient. Il fait ce qu'on n'a jamais fait. Vous êtes d'accord avec cette analyse ?
Écoutez, on a audité la semaine dernière Jacques Toubon. Dans sa nouvelle fonction de défenseur du droit. Rappelez-vous ce que disait Toubon il y a quelques années en arrière. Aujourd'hui, je trouve qu'il défend le plus faible, qu'il défend les droits de l'homme. Et c'est bien, et tant mieux. Cette évolution que les uns et les autres ont, il faut arrêter de rester figé sur un clivage à un moment donné, ou sur des idées préconçues, des idées qui... Aujourd'hui, on évolue. Et moi, j'aime beaucoup... Je fais aujourd'hui, j'aime beaucoup, pourquoi ? Parce que je regarde et j'observe dans les débats, quand Mélenchon, quand il a une belle idée et qu'il défend une belle idée, j'applaudis.
Alors, vous citez Jacques Toubon, mais le défenseur des droits est très mécontent en ce moment de la politique du gouvernement, en particulier concernant la question de la circulaire de l'Intérieur.
Mais il a raison de soulever des sujets tels que celui-là.
Et pourtant, il vient de la famille de Jacques Chirac.
On
parle d'atteinte aux libertés et à la dignité des plus démunis, dans le risque finalement de recenser des migrants dans les centres d'hébergement d'urgence. Il pense qu'il y a une ligne rouge qui a été franchie.
Vous m'amenez sur un sujet, effectivement, que je commence à défricher. Je ne suis pas spécialiste de tout, mais j'ai commencé par aller au Canet, chez nous. Tout le monde connaît le centre de rétention de Canet. Je l'ai visité parce qu'on m'avait dit qu'il y avait des familles, des enfants, et je trouvais ça scandaleux.
C'est pas le pire, hein.
Attendez, je l'ai visité et j'ai tenu à ne pas être guidé, j'ai tenu à visiter sans les avertir avec une journaliste. Il n'y a plus d'enfants, mais j'ai demandé où ils étaient, les enfants. On m'a dit qu'ils étaient à Nîmes. Donc, je le donne, peut-être qu'on m'entendra du côté de Nîmes, j'irai visiter Nîmes. Ce n'est pas un centre de rétention, c'est une prison. C'est une prison. Les gens, ils sont enfermés, il y a des barbelés, donc... Parlons de choses concrètes. C'est une vraie prison. Aujourd'hui, en matière d'immigration, c'est quelle est la solution ? C'est ça qui m'intéresse. Une fois qu'on a fait le constat, quelle solution on pourrait apporter ? Je le dis toujours, on ne peut pas arrêter l'eau qui coule. En matière d'immigration, on n'arrêtera jamais l'eau qui coule. Vous mettez le barrage que vous voulez, quand les gens ils ont faim, quand ils ont soif, ils passeront le barrage. Donc, quelle solution on peut trouver ? Au niveau d'abord européen, par rapport à toute cette masse qui arrive de réfugiés, de Syriens, de tous les côtés du globe. Au niveau européen, on se répartisse, parlez de quotas, parlez de ce que vous voulez, mais qu'on se répartisse toute cette population qui arrive. Et qu'on ne laisse pas se débrouiller l'Italie d'un côté, la Grèce de l'autre, qu'on renvoie la balle à la Turquie. Il faudrait que ça soit vraiment au niveau européen qu'on
en même temps, Mohamed Lekila, en même temps, Gérard Collomb, ex-socialiste, aujourd'hui ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, ferme sur les orientations de son projet de loi sur l'asile et l'immigration. Projet de loi attendu en Conseil des ministres fin février, je vous le rappelle, et qui affirme que la France doit accueillir des réfugiés, mais elle ne peut accueillir tous les migrants économiques, d'où le triage qu'il y a actuellement. On a parlé de Jacques Toubon, mais il en a un autre. Dans une tribune publiée ce dimanche dans Libération, l'écrivain Yann Moix dénonce lui aussi la politique migratoire d'Emmanuel Macron. Monsieur le Président, je le cite, « Monsieur le Président de la République, chaque jour vous humiliez la France en humiliant les exilés. » Alors, il y a quand même plusieurs voix différentes qui pointent du doigt cette politique.
Écoutez, vous n'avez pas Collomb en face de vous pour en discuter. Par contre, Collomb, je vais l'avoir dès demain soir, puisqu'on a une réunion avec le ministre. Il défend une position qui est celle aujourd'hui du gouvernement. On a des choses à dire. Et moi, j'ai des choses à dire. C'est pour ça que je vous dis, le sujet m'intéresse au plus haut point. Vous avez rappelé quand même mes origines. Ce qu'ont vécu toutes les immigrations aujourd'hui. Donc on a des points à défendre. Mais permettez-moi de revenir peut-être au moment où on aura le projet de loi.
D'accord, mais quelle est la marge de manœuvre, Mohamed Lekila, des parlementaires sur ce texte?
Les parlementaires, ils ont leur mot à dire. Ils ont leur mot à dire. Ils auront leur mot à dire.
Il y aura des amendements pour adoucir le projet de loi?
Écoutez, je vais vous dire une chose. Je suis peut-être le seul député, dans le cadre de la loi droit à l'erreur, avoir déposé un amendement. Je vérifierai d'ici demain s'il a été retenu. Au moins, parce qu'il peut être rejeté pour de forme, etc. J'étais le seul. Qu'est-ce que dit mon amendement ? Il dit, dans le cadre du droit à l'erreur, un étranger qui a un titre de séjour de 10 ans, de 3 ans, d'un an, les étudiants, etc., ben il arrive qu'ils oublient simplement de le renouveler. Ça peut arriver, comme on le fait en matière de passeport. Ben oui, ça peut arriver. Et quand on connaît les délais, par exemple, sur Marseille, qui sont très lents, je demande tout simplement, dans le cadre de cette loi droit à l'erreur, de s'intéresser à ces cas-là. aux étrangers qui ont un titre de séjour et qui oublieraient tout simplement la date de validité. Qu'on leur donne, qu'on leur signale, et en plus qu'on leur donne 6 mois pour régulariser la situation. C'est un amendement d'abord que je débattrai. Je suis le seul à l'avoir déposé, j'en suis certain, donc personne n'y a pensé, et avant même que le projet de loi soit
promulgué. Alors on a compris, peut-être des amendements, mais est-ce que on peut changer l'orientation de ce texte, qui est quand même, d'après les associations, très...
Les associations, elles sont dans leur rôle. Elles seront toujours dans leur rôle. Et tant mieux. Ça permet le débat, ça permet de réveiller les consciences. Vous voyez, des situations que je ne peux aujourd'hui qu'une maman qui n'a pas son titre de séjour, se retrouve avec son bébé enfermé dans une prison. C'est ça la réalité, parce que c'est ça les centres.
Vous parlez des centres de rétention, mais le gouvernement projette aussi d'allonger la durée d'internement des personnes qui y passent, alors que tous les travailleurs sociaux qui accompagnent les gens qui se trouvent retenus disent qu'en fait, administrativement, on n'a pas besoin. Justement, ce n'est pas une prison. Il ne faut pas garder les gens au-delà d'un certain nombre de jours. Ça ne sert à rien.
J'ai discuté effectivement avec le personnel qui me disent pas résoudre. En tout cas, connaître le pays d'origine, parce que c'est un peu l'idée. C'est savoir vers qui on va renvoyer le jeune ou la jeune qui n'a pas ses papiers. Il dit, si on n'arrive pas en 15 jours, on n'y arrivera pas plus. 3 mois, en 6 mois, etc. Donc c'est vrai que cette histoire de délai pose problème. Mais les gens qui sont en prison, vous ne pouvez pas garder quelqu'un en prison pendant des mois et des mois parce qu'il n'a pas une carte d'identité, un titre de séjour, c'est inacceptable.
Le groupe MoDem est sur vos positions, vous pensez pouvoir entraîner pour vous faire entendre?
En tout cas, moi j'ai toujours été libre de mes paroles, je le dirai. D'abord au groupe, bien évidemment, puisqu'on aura ce débat.
Mais vos collègues sont plutôt autistes ou plutôt ouverts sur ces questions-là?
Ils sont ouverts sur tout.
Oui, mais concrètement.
Concrètement, c'est à moi de défendre mes positions et mes convictions. Je suis convaincu de ce que je dis et je le défendrai. Vous verrez, je le défendrai en commission, je le défendrai au groupe du MoDem, je le défendrai dans l'hémicycle. C'est un sujet qui est très important. On a constitué un petit groupe, pour tout vous dire. Mercredi prochain, on a déjà les premières réunions. 6 parlementaires du groupe sur 47 et on va commencer à préparer les positions du groupe. Mais en dehors du position du groupe, si la position du groupe ne me plaît pas ou ne me convient pas, j'irai défendre mes propres convictions et mes propres amendements en nom libre.
Alors, un rapport parlementaire, encore un, mais vous êtes député, c'est un peu normal. Un rapport parlementaire qui sera présenté en commission des lois ce mercredi, Mohamed Lakhila préconise de sanctionner les cannabis par une simple amende, permettant ainsi aux forces de l'ordre de concentrer leurs efforts sur la lutte et le trafic. Est-ce que vous êtes favorable ?
Il faut lutter contre le trafic. Ça, c'est une certitude. Je pense qu'on ne le fait peut-être pas suffisamment. Ensuite, sur le cannabis lui-même, comme lutter contre le tabac. Le tabac fait des dégâts aujourd'hui, l'alcool fait des dégâts, le cannabis en fait certainement. Je ne suis pas médecin.
Quand on passe à l'amende, c'est les premiers pas en général pour la dépénalisation.
Écoutez, moi je préférais qu'on aille plus vite. Voilà, moi
Vous êtes pour qu'on dépénalise la consommation de cannabis, Mohamed Lakhila ?
C'est ridicule aujourd'hui. Il y a une réalité, on fume le cannabis, il y en a qui fument la cigarette, d'autres qui boivent un coup, etc. Moi je préfère qu'on fasse de la prévention. J'ai des enfants. J'ai quand même 2 grands-enfants, je préfère discuter avec eux, plutôt que de punir pour punir.
Donc vous êtes pour la dépénalisation de la consommation du cannabis. Mohamed Lakhila, en 2016, 17 millions de personnes âgées entre 11 et 64 ans ont déclaré avoir fumé au moins une fois du cannabis au cours de leur vie. Et vous, Mohamed Lakhila ?
Eh ben non, je fume même pas de cigarette, donc je suis épargné de ce côté-là.
Michel Guéraud ?
D'accord, autre sujet, hein, peut-être moins fumeux, quoique.
Je vois qu'on fume beaucoup à cette radio.
On en parle beaucoup en tout cas.
On parle beaucoup.
Emmanuel Macron, en fait, depuis ses débuts, maintenant porte sur ses épaules l'image du président des riches. C'est une formule qui circule. Qu'est-ce que vous pensez de cette qualification ?
Il y en a qui collent effectivement des images pour un homme. Moi, je vois tout simplement, parce que pour avoir travaillé et pour travailler toujours à cette commission des finances, c'est que ce pays connaît un taux de prélèvement le plus élevé d'Europe. On est à plus de 44% du PIB. On a des dépenses publiques aujourd'hui à hauteur de 1 257 milliards. On a une dette publique qui atteint les 2 150 milliards. On a un déficit qui est énorme, même s'il est réduit pour cette année. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Je pense que le travail qui a été fait, bien évidemment, c'est de libérer l'économie. Il faut créer de la richesse dans ce pays. Et des pépites, des entreprises ne demandent qu'à être aidées plutôt que de partir à l'extérieur. Et ça, mon métier, moi, me permet de m'exprimer. Quand je vois des clients, un client, par exemple, qui est à Tourcoing, qui a une entreprise qui marche, qui a quand, et quand il regarde ses prélèvements, ses impôts, l'impôt sur les fortunes, et qui regarde juste à 200 mètres de chez lui, c'est-à-dire de l'autre côté de la rue, en Belgique, où il va économiser de l'impôt, etc., qu'est-ce qu'il fait ? Il s'en va. Donc, il y a des dizaines de milliers d'entreprises qui partent. Donc, celle-là, il fallait le retenir. Donc, on s'est attaqué à l'ISF, qui ne rapportait pas grand-chose, mais on s'est attaqué à cet impôt. Donc, il y a eu le courage, pour la première fois, parce que tout le monde le dénonçait, droite, gauche, jamais personne s'y attaquait. Bien sûr, il faut que nos entreprises attirent de nouveaux capitaux. Et là, en ce moment, on essaye d'attirer de nouvelles entreprises qui investissent plutôt dans ce pays, plutôt que qui partent à l'extérieur. Donc, créons d'abord de la richesse.
Non, mais attendez, l'ISF, attendez, revenons deux minutes
oui,
à l'ISF.
Oui, on peut y aller sur l'ISF. D'ailleurs, j'ai même déploré...
Transformer l'ISF en impôt sur le patrimoine immobilier, Mohamed Lakhila.
C'est idiot.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux avoir des actions d'une société étrangère et gagner de l'argent sans rien faire, tandis que si je loue des appartements, je vais être imposé davantage.
D'abord... Je me suis battu pour ne pas créer l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Je me suis battu. Vous verrez tous les amendements que j'avais déposés à ce niveau-là. Pour la simple raison, c'est que vous pouvez avoir un petit revenu et hériter d'une maison, par exemple sur la corniche, et vous êtes tout de suite taxé à l'impôt sur fortune immobilière. Et vous l'avez dit, vous pouvez être 1 milliard en banque et ne pas être taxé, en tout cas, sur l'impôt sur les fortunes. Donc, je trouve qu'il fallait complètement effacer tout ce qui était imposition sur les fortunes, pour les deux raisons que j'ai données. Un, permettre aux entreprises de ne pas partir. Et deux, attirer toutes celles qui sont à l'extérieur et qui pourraient revenir chez nous. Créons de la richesse, créons de l'emploi.
La Grande Tchatch, l'émission du Ravi sur Radio Grenouille.
Avec nous aujourd'hui, Mohamed Lakhila, député de la 11e circonscription des Bouches-du-Rhône, député Modem.
Alors, ce n'était pas la une du Ravi, mais c'était la une du Monde. Et le titre, c'était « Les riches grands gagnants des premières mesures de Macron
». J'espère que vous lisez tous les journaux.
Là, je monte en l'occurrence.
Et y compris le Figaro, Mohamed Lakhila.
Donc, suppression de l'impôt sur la fortune, son remplacement par une taxe sur le patrimoine immobilier, on vient d'en parler, la mise en place d'un prélèvement forfaitaire unique de 30% sur les revenus du capital, la baisse de 5 euros des APL, réduction des emplois aidés, etc. Donc, il y a des économistes de l'OFCE qui ont analysé tout ça. Et ils sont formels, l'Observatoire français des conjonctures économiques, les 5% de ménages les plus aisés capteraient 42% des gains liés aux premières réformes. Bon. Est-ce qu'on est vraiment dans le « en même temps » promis ? Est-ce qu'il n'y a pas dans ces premiers pas de ce gouvernement un déséquilibre qui réjouit, comme le dit tout à l'heure Rafi Hamal, M. Copé et ses amis ?
Regardons et observons très vite ce qu'on a fait sur les 6 mois. Dès la fin janvier, on n'y est pas encore, vous verrez, tous les salariés de ce pays, tous les salariés, voire leur net, sans qu'on ait à toucher au brut, leur net augmenté. Ça, on l'oublie. On est à quelques jours de la fin du mois. Vous verrez qu'à la fin du mois, tous les salariés, ben oui, même vous, si vous êtes salarié, vous verrez le net augmenté.
Alors, les économistes de l'OFCE ne disent pas que...
Eh ben, ils disent ce qu'ils veulent.
Ils disent que tous les salariés vont bénéficier effectivement d'une progression,
mais
ce sont les plus privilégiés qui vont... La proportion, elle relève de 42% pour les plus aisés.
Il faut parler de tout. Donc, on a commencé effectivement par essayer de libérer le plus l'entreprise pour faire en sorte qu'on n'ait pas d'entreprises qui partent.
D'accord.
Ça mettra du temps avant que les gens disent est-ce que c'est la réalité ou pas. Donc, on commence à voir d'abord des effets. Les effets, moi, je rencontre les chefs d'entreprise, c'est pour ça que je garde un pied dans le cabinet, qui me disent, alors qu'ils ne votaient pas du tout Macron, ils étaient plutôt Fillon, en disant, on a une espèce de confiance qui revient. Donc, c'est bien. Parce qu'avant d'investir, il faut avoir confiance. Si vous n'avez pas confiance, vous n'investissez pas. Si vous n'avez pas confiance à un pays, vous partez. Regardez toutes les migrations, etc. Les gens, quand ils n'ont plus confiance en un pays, ils partent. Qu'ils aient de l'argent d'ailleurs ou pas. En l'occurrence, on essaye de retenir ceux qui pourraient créer de la richesse, investir dans ce pays et créer de l'emploi. Pour lutter contre le chômage, il n'y a rien de tel. Il faut créer d'abord de l'emploi. Et je n'ai pas envie qu'on aille les créer en Belgique, même si c'est l'Europe. Je n'ai pas envie qu'on aille les créer en Bretagne ou ailleurs. Je préférais que
c'est
les
pas,
entreprises...
C'est pas très nouveau, ça, c'est ce que font les gouvernements depuis...
Oui, mais il fallait oser, tous ils l'ont dit, mais personne ne l'a fait.
Ils vont plus loin, effectivement.
Personne ne l'a fait, personne n'a été jusqu'au bout. Attendons de voir ce que donne ce résultat. Attendons de voir les résultats. On a 6 mois aujourd'hui. En 6 mois, qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'il était prévu quand même 90 milliards de déficit, on est à 67. Donc il y a un début. Moi, je préférerais qu'on soit à l'équilibre. Je l'ai toujours dit, quand on cherche à baisser le déficit, non, je préférerais être à l'équilibre. Alors c'est sûr que ça peut faire très mal. Si vous lisez mon rapport spécial, j'étais rapporteur spécial du budget, politique de la ville et des territoires. J'ai été très loin et je ne me suis pas fait que des amis chez les élus. Sur les millefeuilles, par exemple, je dis qu'on peut aujourd'hui économiser 25 milliards par an. 25 milliards, c'est pas moi qui le dis, il y a des études qui ont été faites. Vous ne les avez peut-être pas dans vos notes, mais je vous enverrai tout ça. 25 milliards qu'on peut économiser si on s'attaque aux millefeuilles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus de départements, donc moi j'étais très loin, il y a 36 000 communes, il faut descendre à 6 000. Alors c'est clair que quand je dis ça, je ne suis pas aimé des élus.
On va s'arrêter là-dessus si vous voulez. Vous êtes élu donc, du Bouches-du-Rhône. Donc vous assumez ça, il faut supprimer le département des Bouches-du-Rhône.
Bien sûr, il faut qu'il fusionne avec la métropole.
Jusqu'à...
Il faut intégrer, je l'ai dit, y compris à ma collègue d'Arles, Monica Michel, il faudrait qu'au niveau du territoire pour la métropole, qu'on épouse tout le département, qu'on fusionne avec le département, dans le sens qu'ils veulent, mais qu'on n'ait plus qu'une seule institution, qu'on revoie le mode électoral. Parce que le maire qui a 150 ou 200 habitants chez lui, il représente une voix aujourd'hui de la métropole, est ingérable. Moi, je ne sais pas comment Claude Gaudin pour gérer avec toutes les hostilités, toutes les petites communes qui sont là, vent debout, qui veulent tous de l'investissement, etc. Je ne sais pas comment il fait, honnêtement. Il résiste, tant mieux pour lui. Mais c'est compliqué. Donc, je pense qu'il faut revoir aussi la gouvernance.
Alors, par contre, vous dites que ça serait bien. Hein, j'ai lu ça quelque part, on confirmait si vous l'aviez vraiment dit, qu'il fallait passer de 36 000 communes à 6 000 communes.
Oui,
on gagnerait.
Je l'ai dit.
Mais alors, par contre, vous ne dites pas quelles communes il faut supprimer dans les Bouches-du-Rhône, par exemple.
Est-ce que c'est possible? Parce que l'étude n'a pas été faite. Et moi, je le reconnais, moi-même, je n'ai pas travaillé encore sur le sujet.
Mais ce n'est pas réaliste, Mohamed, dès qu'il a 36 000 à 6 000 communes,
mais bien sûr
on va arriver
tout...
à une classe autocrate, il n'y aura plus de proximité.
Alors, est-ce que vous savez qu'il y a 700 à 800 communes l'année dernière qui ont fusionné au niveau national? Il y a 700 à 800, pourquoi?
Le chiffre est loin quand même, 36 000 communes.
Aujourd'hui, il y a toutes les intercos. C'est quoi les intercos? Et ce n'est pas un regroupement de communes. Je pense qu'il y a un vrai travail là-dessus, réel travail, parce que toutes les communes, il y a des communes aujourd'hui qui ont une piscine, mais je ne vais pas citer son nom, mais j'étais avec un maire il y a 2 jours, près de chez nous, qui me dit j'ai une école de musique municipale qui me coûte 300 000 euros par an, où il n'y a pratiquement personne dans le village. Alors que dans les communes voisinantes, il y en a, ils ont leurs propres écoles qui tournent mieux. Est-ce qu'il n'y a pas intérêt à fusionner au moins des services, mutualiser, c'est ce qu'on pourrait faire. Quand il y a une piscine dans chacune des communes, est-ce qu'il ne faut pas une seule pour les deux communes? Surtout quand vous avez des communes à 30 habitants. Je vous rappelle juste le ministre de la cohésion de territoire, il était, je crois, maire d'une commune de 30 habitants.
Mmh. Les maires de votre circonscription, ils acceptent ce discours-là? Alors, ils n'ont pas envie de vous...
Je suis sur une circonscription où, en fait, la question ne se pose pas beaucoup, en tout cas, plus importante. Pourquoi il n'y a que 5 communes? Mais il y a des circonscriptions où il y a 80, 100, 150 communes. Chez moi, vous avez Aix.
Circonscription rurale, par exemple.
Il y a déjà le pays d'Aix. Après, il y a Septem. Septem, elle peut très bien être intégrée dans la commune de Marseille. Hein. Ils aimeraient pas, je sais ce qu'ils... On ne veut pas être le 17e arrondissement, etc. On l'entend des peines Mirabeau. Mirabeau, c'est pareil. Aujourd'hui, moi, je préférerais plutôt métropole.
Et votre ami, le sénateur Michel Amiel,
il n'est pas d'accord. Certainement, il n'est pas d'accord avec moi, mais on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a une métropole. De plus en plus, on transfère des services, etc., à la métropole. Les communes, très bientôt, ça sera une antenne, une citoyenne.
Mohamed Lakhila a une inflation de votation citoyenne sur ou contre ou pour l'intégration des communes et finalement perdre du temps avec des sujets qui sont
Non, c'est important parce que c'est les citoyens qui doivent décider, c'est pas les élus à ce niveau-là.
D'accord, mais alors s'il y a
les citoyens, quand on leur dit que ça coûte de l'argent, ils sont pragmatiques, c'est leur impôt. C'est sûr que si vous fusionnez deux institutions, par exemple les HLM, parce qu'ils sont tous très mal de ce côté-là, ou les communes, ben, là où il y avait deux conseils d'administration, vous n'en avez plus qu'un. Là où il y avait deux directeurs, il n'y en a plus qu'un. Là où il y avait deux maires, il n'y en a plus qu'un. C'est clair. Ça ne peut pas être élu. Par contre, ça plaira certainement au portefeuille de nos concitoyens.
Alors, Martine Vassal, présidente du conseil départemental, que vous souhaitez ? Candidate à la présidence de la métropole en 2020, jamais trop tôt pour se prononcer, qui demande aux députés, quelle que soit leur couleur, en l'occurrence vous, de faire pression sur le gouvernement pour qu'il tienne ses engagements au niveau des financements des transports. Est-ce qu'on va vous entendre là-dessus ? D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec elle ? Est-ce qu'il faut faire pression ou pas ?
Avant de faire pression, laissez-moi le temps d'arriver. Donc, on vient de sortir de la loi de finances. Je commence à regarder d'abord ce qui se passe au niveau national, puisque je voulais rappeler, je suis rapporteur spécial de la politique de la ville et des territoires. Il n'y a pas que toi. Mais bien évidemment, comme je suis là, je regarderai de plus près notre propre territoire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire de faire un état des lieux. J'ai rendez-vous très bientôt avec le président de la métropole, Jean-Claude Gaudin. Je regarderai bien évidemment les projets, parce que je vous rappelle, tiens, un petit amendement que j'ai fait voter. Et j'en suis fier. L'amendement de 10 milliards pour le nouveau plan de rénovation urbaine. Il y avait le plan Borloo, c'était le premier qui avait été voté en 2004, qui s'éteint là, dans les mois à venir. Je vous rappelle juste sur le premier plan, au niveau de notre ville, de notre région, le préfet a rendu de l'argent, c'est-à-dire qu'on n'a pas tout consommé, toutes les enveloppes. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas suffisamment de projets. Ou en tout cas, il n'y avait pas suffisamment d'acteurs sont mis d'accord sur les projets. Là, on repart avec un nouveau plan, 10 milliards. Là, j'aimerais bien voir comment se positionne la métropole et les villes, les communes qui composent et quels sont les projets qu'il faut porter. Et je serai, bien évidemment, un des acteurs pour pousser les projets qui vont dans le bon sens. Vous avez parlé de mobilité, bien évidemment, il faudra travailler sur le sujet. Et j'ai déjà des discussions avec les uns et les autres, mais pas suffisamment pointues pour me faire une idée quel sera le projet prioritaire.
Alors, vous venez d'arriver, effectivement, d'être élu, enfin, il y a quand même 6 mois député, mais par contre, vous connaissez parfaitement cette tension, ces tensions qui existent, hein, historiques, entre Aix et Marseille,
c'est-à-dire les deux jambes
de la métropole Aix-Marseille-Provence, puis ça ne s'arrange pas, hein, avec Gérard Bramoulet, un premier adjoint d'Aix, qui vient d'être démis par Jean-Claude Gaudin. Ils sont dans la même majorité de ses fonctions à la métropole, parce qu'il a remis en cause le budget, et toujours au nom des mêmes arguments qu'on entend depuis des dizaines d'années,
c'est
à savoir
pour ça que
Marseille
vous ai dit,
va ruiner
problème.
Le pays d'Aix. Vous êtes élu du pays d'Aix. Alors comment, vous qui connaissez les deux territoires, très bien, hein, vous avez démarré
dans
les quartiers nord et qui maintenant est élu du pays d'Aix, comment pensez-vous, contrairement à ce qui se dit, que ces deux territoires peuvent être complémentaires et travailler ensemble ?
Je vous parle de la métropole. La métropole, c'est pas
dans ce cadre-là.
Aix, c'est pas qu'Aix-Marseille.
C'est pas que, mais enfin.
Là, il y a un problème, je dirais, humain. Il est pour ça que j'ai parlé de gouvernance. Il y a un problème de gouvernance.
Vous pensez que c'est le problème de Jean-Claude Gaudin et Marie Joissin ?
Bah écoutez, moi, Joissin, avec tout le respect que je lui dois, quand elle dit « je ne veux pas me marier avec les mafieux marseillais », c'est inacceptable. C'est tout simplement inacceptable. Je veux bien tout entendre, mais pas en ces termes. Donc ça, je lui dirai, et je pense que je me suis exprimé sur le sujet.
On doit, en même temps, Marie Joissin est observatrice des multiples affaires qui jalonnent la vie politique marseillaise. Elle peut aussi légitimement dire ça, non ?
Vous savez, quand vous dites « les Marseillais sont mafieux », vous incluez tous les Marseillais. C'est ça. Et cette image de la mafia marseillaise vue de l'extérieur, parce que quand vous dites « je suis élu des Bouches-du-Rhône », vous êtes Marseillais, vous êtes mafieux. Quand vous dites « oui, je suis à Aix », ah ben non, vous êtes bourgeois. Il faut arrêter avec cette histoire. D'abord, on est élu de la nation. Ça, c'est le premier point. Et moi, je reviens sur la métropole. Il y a un problème probablement de gouvernance. Et j'en appelle à la responsabilité des élus, de l'ensemble des élus, quel que soit le bord, pour aller dans le bon sens. Parce qu'il y a de l'argent, l'État met de l'argent. Mais 10 milliards, je vous rappelle. Il y a la ville de Pau qui a été signataire, la ville de Rennes qui a déjà signé des contrats. J'irai voir Arlette Fructus qui s'occupe de ce sujet pour voir quels sont les projets de la métropole. Pas de Marseille, pas simplement d'Aix, Mais probablement, certainement au sud de Marseille. Puisque
le
Marseille
taux de chômage dans votre circonscription avoisine 12%,
c'est énorme.
C'est
pour ça que je me bats aussi pour l'emploi. Alors, je vais voir les maires quand ils s'opposent à des projets. On a le maire d'Aiguille qui s'oppose à des projets d'entreprises, en tout cas de ceux qui ont envie de créer de l'emploi. J'ai suscité le débat à l'occasion. Je vais voir le maire de Septem. Quand il ne fait rien pour arranger aussi la création d'emplois dans son village, je leur dis ce que j'en pense.
Michel, vous êtes quand même un homme des chiffres, on l'a dit. Il n'empêche les quartiers nord marseillais concentrent beaucoup de pauvreté, oui. Beaucoup de difficultés. Oui. La richesse est plutôt autour de Marseille, oui. Autour de la ville-centre. C'est une spécificité en France, on le sait.
Oui.
Et dans un certain nombre d'acteurs du pays d'Aix ont peur de porter les dettes et les difficultés de Marseille, alors qu'il y a aussi des difficultés sur leur territoire.
On peut avoir le même débat, vous avez vu, au niveau de l'immigration. Voilà, on pourrait presque avoir le même débat. Aujourd'hui, effectivement, il y a quelques villages que j'appelle les villages gaulois qui veulent s'entourer de barbelés. En disant, si je fais du social chez moi, je vais avoir tous les quartiers nord qui vont arriver. Ils oublient qu'il y a des enfants du village qui ne peuvent plus se loger à Aiguille, qui ne peuvent plus se loger au Pen, à Cabriès chez moi, etc., et qui partent ailleurs parce que, justement, les loyers sont trop chers et le foncier est trop cher. Donc, il faut raisonner plus que métropole. Ça me paraît quelque chose de correct. Et il faut une mutualisation, une solidarité des territoires. Ça me paraît important. Une vraie solidarité au niveau des territoires. Dans mon rapport spécial, je parle d'ailleurs d'une cinquantaine que le ministère a pointé du doigt, une cinquantaine de quartiers très, très en difficulté. Et il faut concentrer le tir, en tout cas à très court terme, sur ces quartiers-là. Quand je dis 50, ce n'est pas Marseille. C'est au niveau au niveau du pays, au niveau national. Il y a une cinquantaine. Il faut mettre le paquet.
Mais le paquet sur quoi? C'est ce qu'on a fait. C'était la politique de la ville jusqu'à présent. Et
alors,
ça n'a
strictement
rien donné à part ripolliner les immeubles.
Et ben, vous le dites bien, politique de la ville, ça n'a rien donné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut peut-être sortir de là et revenir au droit commun. Quand on s'occupe de transport, d'école, on l'a fait en matière d'école. Quand on dédouble les classes, ça, c'est pas de la politique de la ville, c'est le droit commun. Ce droit commun, on doit le voir sur tout le territoire. À Cayenne, à Mayotte, parce qu'à Mayotte, on n'en parle jamais, c'est une catastrophe. Voilà, sur tout le territoire national, on doit avoir cette solidarité des territoires et ne pas avoir des territoires très riches, comme on le voit, y compris sur Marseille. Vous regardez Marseille, vous avez une partie, effectivement, qui vit bien. En tout cas, il y a tout ce qu'il faut. Et puis, tout le reste du territoire, il est en déshérence. Il faut une solidarité des territoires.
Vous le savez, il y a beaucoup d'inquiétudes par les acteurs économiques et sociaux de ces quartiers, car on a bien compris que le gouvernement voulait rompre avec la politique de la ville et qui a montré un certain nombre de dysfonctionnements. Ce qui est moins visible, c'est ce qui va se créer à la place. Pour l'instant, il y a une certaine peur du vide, et en particulier liée, bon, même si c'est deux dossiers différents, liée à la suppression des emplois aidés qui bénéficiaient beaucoup dans ces quartiers à un certain nombre de structures. Est-ce que là, c'est pas un peu dur, la soupe au vinaigre à avaler dans ces premiers mois de la gouvernance Macron dans ces quartiers?
Je me suis exprimé sur ces contrats. Vous savez, juste à la fin du règne d'Hollande, lancer 500 000 contrats comme ça, c'était irresponsable. Mais vraiment irresponsable. Une association aujourd'hui qui vivait que sur des contrats aidés, je parle du dirigeant, c'est des décisions irresponsables. J'ai discuté avec des responsables, de vrais responsables, que ce soit dans le monde associatif ou que dans le monde politique, parce que les mairies, à l'époque, le préfet lui-même poussait à la consommation en disant il faut placer nos 16 demandeurs d'emploi avec des contrats aidés. En gros, on subventionne pour faire baisser le taux du chômage. Ce n'est pas ça qu'il fallait faire. Et c'est pour ça qu'on a dit stop. Alors, il y a des contrats aidés, bien évidemment, des secteurs qui ont été protégés où c'était nécessaire. Je suis intervenu moi-même auprès du préfet quand c'était nécessaire, dans des écoles, dans des associations qui s'occupaient d'handicap, etc. Mais ce n'est pas la solution pour sortir du chômage. Ce n'est pas avec les contrats aidés que vous sortez du chômage. C'est en faisant en sorte qu'il y ait une vraie création d'emplois, mais des emplois pérennes, pas des emplois aidés, c'est-à-dire subventionnés.
Une des richesses du territoire, c'est le monde associatif. Avec cette perte d'emplois aidés, ce tissu, ce dernier recours qu'ont les gens finalement, va laisser en s'étiolant, non?
Non, j'ai pas eu, en tout cas, les responsables que j'ai vus, j'ai pas eu une seule plainte en disant on va sucrer les emplois aidés. Il faut arrêter le saupoudrage. Moi, je l'ai dit encore, il y a des maires responsables qui avaient pris un ou deux contrats aidés, qu'ils ont transformés en CDI, parce qu'ils en avaient besoin, ils avaient l'utilité. Des associations, pareil. Quand il y a une association qui vit sur un modèle économique, parce qu'il faut voir aussi comment on vit l'association. Quand elle rend un service utile, c'est normal de l'aider.
Qui juger si c'est un service utile ou pas? Bah, ou moins utile,
même,
en tout cas?
Non, il y a des... Honnêtement, moi, je préférerais que ça soit l'État qui s'occupe de ce qui peut être utile ou pas. L'école, par exemple, c'est vraiment le fondamental. L'école, c'est primordial. Et dédoubler comme ça a été fait...
Une association qui donne de l'alphabétisation après les cours d'école, c'est inutile?
C'est très bien, mais je préférerais quand même que l'école joue son rôle plein là-dessus, y compris sur ce genre de problème. Personnellement, quand je suis arrivé à 10 ans à la Bâtie-Neuve, dans les Hautes-Alpes, je ne parlais pas un mot français, je n'avais pas une association pour m'aider. Mais par contre, l'école, et le maître d'école, le directeur d'école, lui m'a aidé.
D'accord. Mohamed Lakhila, quand on est député aujourd'hui en 2018, sous Emmanuel Macron, sous le règne d'Emmanuel Macron, quand on a sur sa circonscription 12% de chômeurs, des emplois, des associations qui sont en difficulté, et surtout quand on a supprimé la réserve parlementaire, comment on fait pour s'adresser aux gens? Comment on fait pour leur expliquer que désormais, ils n'ont plus grand-chose à attendre du citoyen,
D'abord, j'ai eu très très peu de demandes par rapport à la réserve parlementaire. Pour la simple raison, j'ai regardé un petit peu ce que faisait quand même mon prédécesseur. Il concentrait la plupart, enfin, presque la totalité, sur une ou deux associations. Et je parle même pas... Je ne donnerai même pas les noms des associations. On les retrouvera sur l'Assemblée nationale, sur le site de l'Assemblée nationale. Donc, je trouvais que c'était scandaleux de pouvoir distribuer simplement selon l'envie du moment ou du député. Donc ça, on n'en parle pas. Par contre, les associations, et j'ai été dans tous les forums des associations, que ce soit sur Aiguille, sur Aix, sur Cabriès, les Pins de Mirabeau, je n'ai pas eu de plaintes de ce côté-là, en disant on nous a coupé les vivres avec ce genre de contrat.
Michel?
Donc pas de regret. Christian Kerr, qui était assez centriste dans le paysage politique régional, tout est relatif, vous allez me dire, c'était pas le plus véhément. Ça a été assez juste, il y avait 590 voix de d'écart, c'est ça, lors de votre élection, un match serré. Alors c'est vrai que vous avez remonté la pente en particulier... Pour vous...
Oui, c'est quoi la question?
La question, est-ce que c'est une terre centriste ou pas, cette circonscription dans laquelle vous êtes?
Elle est assez particulière. C'est vrai que la France insoumise a fait 10 points, et notamment Les Pins de Mirabeau et Septem. Là où l'extrême droite cartonne, ils arrivent même premiers, Septem et aux Pins de Mirabeau. C'est vrai que dans les autres bureaux de vote, si on analyse un peu les bureaux de vote, ils ont plutôt voté Macron. Les bureaux de vote qui votaient traditionnellement à droite. Au premier tour, je fais 35%. Au premier tour. Il y a un rattrapage au deuxième tour pour deux raisons. Front National a voté massivement, c'est reporté sur Christian Kerr. Et les mélenchonistes, c'est comme ça que je les appelle, ont mis du bulletin de Mélenchon au deuxième tour. Voilà, ils ont voté Mélenchon alors qu'ils n'étaient pas qualifiés.
Votre prédécesseur, vous n'aimez pas trop en parler. 6 mandats, hein, c'est l'élu à l'ancienne. Hein. Est-ce que vous pensez que c'est trop? Alors, est-ce qu'on parlait tout à l'heure de transparence, de rénovation de la vie politique? Est-ce qu'il ne faut pas faire tant de mandats?
Je pense que les Français... d'abord, législatif, c'est souvent... On confirme les élections présidentielles. Donc, il y a eu une vague... Une vague aux législatives, on n'a fait que confirmer. Et puis, le candidat, quel qu'il soit, hein, quelle que soit la qualité du candidat, il a sa petite plus-value, je dirais, à 2-3%. Moi, je ne serais pas de ceux à fanfaronner en disant « je suis arrivé, j'ai gagné, etc. »
Vous le voyez venir quand même, Mohamed Lakhila. Vous allez faire un seul mandat, deux mandats, multiples mandats?
Je pense qu'un mandat de 5 ans...
C'est suffisant?
Ça pourrait être largement suffisant.
Mais
si on se donne à fond. Je vois simplement sur les 6 premiers mois.
Donc vous allez vous donner à 60% pour pouvoir faire un deuxième mandat, c'est ça?
Non. Moi, je pense qu'un mandat renouvelable une fois et encore, mais ça serait suffisant. Mais si on considère que c'est une mission, si on considère que c'est un métier, c'est plus pareil. Et je pense que jusqu'à présent, la difficulté, c'est que beaucoup d'élus, en fait, ne vivaient que de ça. Pour ça que je tiens à garder mon pied dans le cabinet, au niveau des entreprises, auprès de mes clients, ce qui me permet effectivement à la fin de ce CDD, parce que c'est un CDD, de pouvoir m'arrêter si je le souhaite, ou de partir et de perdre, il faut l'envisager. Donc je suis là-dessus très très...
On aura l'occasion de vous re-questionner là-dessus vers la fin de votre mandat. Mohamed Lakhila, on assiste à une espèce de con dans la société française sur le religieux, le thème du religieux qui a envahi tous les secteurs, ou quasiment tous les secteurs. Est-ce que vous, Mohamed Lakhila, vous trouvez que la laïcité est en danger aujourd'hui, dans différents secteurs, à l'école ou autre?
Je ne le pense pas. Je ne le pense pas parce que je pense que c'est ancré dans la culture française. On y tient. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a un seul amendement, et on le vit aujourd'hui avec le droit à l'erreur, il y avait un amendement qui touchait au culte. On demandait aux associations, par exemple, cultuelles, d'être transparentes comme les autres associations. Il y a un article qu'il prévoit dans
Vous
dans
avez
le projet
j'ai,
de loi.
Géré jadis une association cultuelle, Mohamed Lakhila.
J'ai été non seulement le trésorier, mais même le porte-parole. Donc, tout ce qui est laïcité, pour moi, c'est quelque chose de fondamental, mais qui aujourd'hui, de temps en temps, est attaqué, bien évidemment. Je pense que la République est assez solide, avec des gens de conviction, pour faire en sorte qu'on ne remette pas en cause ce fondamental.
Mais vous comprenez cette crispation aujourd'hui ?
Ben, la crispation, elle vient quand même de ce qui se passe. Il ne faut pas non plus occulter ce qui se passe autour de nous. L'islamisme, les quartiers, on l'a dénoncé. Rappelez-vous, il y a quelques années en arrière, j'étais le premier à monter au créneau pour dénoncer. Et on prévoyait même, malheureusement, ce qui est arrivé à l'époque. On avait interpellé, rappelez-vous, avec Sohail Benchek, le ministre de l'Intérieur à l'époque, en disant, attention, si vous ne faites rien, voilà ce qui va se passer avec une génération qui est sacrifiée. Malheureusement, on n'a fait que constater les dégâts.
En 2001, on a vu l'émergence de l'islam politique ici, à Marseille en tout cas. À l'époque, je vous avais interrogé, vous aviez dit, à partir de 2001, un homme politique doit avoir un pied dans la mosquée et un pied dans la politique. Pour savoir aussi, pour être élu, il faut aussi fréquenter un petit peu la mosquée. Aujourd'hui, vous êtes député de la 11e circonscription. Vous pensez qu'il faut toujours fréquenter un petit peu la mosquée?
Je ne me rappelle pas vous avoir déclaré.
C'est écrit dans un des numéros du Ravi qu'on vous ressortira avec plaisir.
Le Ravi, il n'écrit pas que des vérités.
Oh. Si, celle-ci est vraie. Sinon, vous auriez démenti à l'époque.
À l'époque, je me battais pour l'égalité des cultes à Marseille. D'ailleurs, on a bien vu, depuis qu'il n'y a plus ce combat... On ne sait plus où on en est d'ailleurs sur Marseille. On a annoncé la construction de la mosquée, qu'on n'a jamais vue. Et sur cette égalité entre les cultes, bien évidemment, j'ai toujours le même avis. Et on ne s'est pas occupé de l'islam de France, mais pas maintenant. Il y a 15 ans, 20 ans, on aurait dû prendre ce sujet à bras le corps et on ne s'en est pas occupé. Malheureusement, on voit que d'autres... par contre, s'en sont occupés. Et d'autres, aujourd'hui, conduisent des jeunes, à en faire des djihadistes et des gens qui, aujourd'hui, combattent la France.
Michel ?
On a assez peu parlé du Front National dans cette émission, ce qui est assez rare, finalement. Alors, on va dire peut-être tant mieux. En même temps, est-ce que vous croyez, même si, visiblement, le parti de Marine Le Pen traverse des difficultés, est-ce que vous pensez que le problème est réglé ou est-ce qu'il y a un souci ? Vous avez été aussi élu du 13-14 et on sait que... Omer, d'extrême droite, est actuellement en place là-bas. Est-ce qu'il y a un enjeu pour vous est-ce qu'il est lié à ce que vous faites en ce moment, vous et la majorité Modem Macron ?
Vous savez, le Front National, il vit sur la misère. Comme l'islamisme, d'ailleurs. Ils ont le même terreau. Donc aujourd'hui, il faut, pour battre, ou en tout cas combattre le Front National, ou l'islamisme, ou tous les extrémismes, il faut de la richesse, il faut créer de la richesse, il faut créer des emplois, il faut que les gens se sentent bien dans ce pays. Et c'est comme ça qu'on y arrivera. Tant qu'on assigne à résidence des jeunes dans les quartiers, sans éducation, sans école, sans perspective, eh bien, on ne combattra pas le Front National, et pas plus que les autres extrémismes. Donc, priorité à l'école, et c'est ce qu'il faut faire, en dédoublant les classes. Priorité à la création d'emplois, priorité à la formation, il faut mettre le paquet sur la formation, il y a un projet de loi là-dessus, sur l'apprentissage, sur la formation, etc. C'est la priorité des priorités. C'est comme ça qu'on battra le Front National, pas autrement.
Alors Mohamed Lakhila, parmi vos multiples titres à l'Assemblée nationale, vous êtes aussi vice-président, on le disait tout à l'heure, de la commission spéciale chargée d'examiner les projets de loi pour un État au service d'une société de confiance, et c'est le mot confiance qui m'intéresse, puisque ça se passe à l'Assemblée nationale. En parlant de confiance, donc, un document de France Inter ce matin révèle que le secrétaire général de l'Assemblée nationale, rémunéré à hauteur de 18 000 euros net par mois, dispose d'un logement de 182 mètres carrés, ainsi que d'un majordome qui lui occupe un autre appartement de 49 mètres carrés. Pour le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, hein, c'est 149 mètres carrés en plus d'un salaire de 10 000 euros net par mois. Encore plus surprenant, le chef du département génie climatique rémunéré lui à 7 750 euros par mois, tout comme celui du département électrique qui occupe eux aussi des appartements, respectivement 167. Hein, c'est pour montrer qu'on est à Paris, les surfaces sont très petites et ces gens-là ont des très grandes surfaces. Donc 167 mètres carrés et 107 mètres carrés. Mohamed Lakhila, vous êtes donc... un mot là-dessus, ces gens-là ne sont pas élus. Hein, donc vous êtes à l'Assemblée nationale, ça se passe sous votre nez, si je puis dire. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça?
Bah, j'ai appris que l'huissier, l'huissier qu'on voit un peu de partout, avait une indemnité supérieure à celle des députés. Mmh. Voilà, donc je pense qu'il y a des choses qui ont été acquises au fil de l'eau. Aujourd'hui, en tout cas le président de l'Assemblée s'est attaqué à tout cela et tout sera remis, à mon avis, en ordre petit à petit.
Suppression de ces appartements, de ces avantages bah, qui, qu'on ne comprend
pas. Quand le député a 9 mètres carrés, je ne vois pas pourquoi le même député avec une fonction un peu différente ait des avantages. Je crois que les Français n'en veulent plus de ces avantages acquis, que ce soit en matière de retraite. Parce qu'à un moment donné, on parlera aussi des retraites et des retraites différenciées. Je pense que les Français veulent de la transparence. Une fois qu'on a effectivement des chiffres, etc., ben la question est posée. Et il y aura débat.
Il y aura des changements.
Il y aura forcément des changements.
Michel Guéraud.
Il y en a déjà eu depuis le début, quand même.
On approche de la fin. Peut-être une question sur la diversité. Alors, le terme, il vaut ce qu'il vaut. Parfois, on vous qualifie, hein, les journalistes, nos confrères, vous qualifient de députés issus de la diversité. Alors, je crois que quelqu'un a fait un calcul. Il y aurait 15 députés issus du monde arabo-musulman. Est-ce que ça veut dire quelque chose? En tout cas, pour vous, est-ce qu'il y a un enjeu, malgré tout? C'est-à-dire de faire en sorte que les Français venant de tout horizon siègent dans la représentation nationale. Et est-ce que vous pensez que vous avez un rôle à jouer à ce titre-là?
Dieu merci, on n'a pas de quota dans ce pays. Donc, d'abord, il faut avoir envie d'être député. Ça a été mon cas. Je pense que j'ai été élu sur un secteur, effectivement, quand je suis arrivé avec le prénom que je porte, ça pouvait poser problème à certains. On voit bien que les Français, ils sont au-delà de tout ça. Ils sont au-delà de... Donc, je ne me réclame pas d'une diversité où je suis français, comme tout le monde, avec, bien évidemment, mes origines, ma culture, etc. Mon histoire. La plupart des Français, ils sont un peu comme ça, quand même. Hein.
D'accord. Deuxième question, par contre, il y a une diversité sociale. Alors là, par contre, ce n'est pas encore au point, parce qu'il y a très peu d'ouvriers fraiseurs à l'Assemblée nationale. Et, avec votre profil d'expert comptable, vous êtes très typique du député en marche.
Aussi, hein.
D'accord, mais enfin, votre profession fait... Les députés en marche,
c'est
les marcheurs
pas une charge
et les modèles.
Qu'on m'a légué.
Pour vous, ça va ou il faudrait rééquilibrer?
C'est pas une charge qu'on m'a léguée quand même.
Oui,
je suis expert comptable parce que j'ai travaillé à l'école.
Il y a très peu de charges qu'on lègue,
voilà.
À part les notaires, il y a quand même très peu de charges qu'on achète ou qu'on lègue.
Est-ce que vous déplorez le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'ouvriers, d'employés dans la députation?
Ben, j'ai pas regardé s'il y avait des ouvriers ou pas. Vous avez peut-être les statistiques, j'en sais rien.
Très faible.
Vous le regrettez?
Non, pas du tout. J'ai pas à faire la distinction de savoir combien il y a de médecins, combien... Non. Un député, ça se décrète pas. Alors,
mais c'est une assemblée qui doit être à l'image du pays, tout de même, qui doit représenter...
Oui, mais alors dans ce cas-là, vous faites quoi? Vous faites une liste avec un quota. Faut avoir envie d'aller à une assemblée, d'être élu, tout simplement. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être élus. Il se trouve que ceux qui siègent aujourd'hui l'ont... certainement mérité.
Allez, c'est l'heure de parler un petit peu d'argent, Mohamed Lakhila, pas avec vous, mais avec Michel Guéraud, et il s'agit du Ravi cette fois-ci.
Alors, je fais très court, c'est d'argent, mais aussi c'est de dynamique pour faire vivre une presse différente, une presse pas pareille, une presse indépendante, une presse satirique. Et on n'a pas beaucoup de titres satiriques en France et dans les régions françaises. On est le seul d'ailleurs satirique régional français depuis 15 ans, et on traverse de nouveau une passe pas très facile. On a lancé un couscous bang bang, c'est-à-dire c'est la formule maison, ça, c'est du kiss kiss bang bang. En fait, c'est une formule de de financement participatif maison. Ça a bien démarré, hein. Donc on cherche à réunir 30 000 euros en 100 jours. Il nous reste une quarantaine de jours. On est déjà à 22 et quelques 23 peut-être. J'ai pas fait le point ce matin. Voilà, mais je redis à nos auditeurs qu'il est, il est temps, c'est le moment, il est encore temps de s'abonner, d'aller sur le www.leravis.org et de participer à ce couscous, de faire un don, de prendre un abonnement. Ça vaut la peine.
Ou au moins de l'acheter tous les mois, c'est dans tous les kiosques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mohamed Lakhila, mille merci. On se dit à bientôt.
Merci prochain. À vous.
Bye.
Le Ravi. Le Ravi.